Et vous dire bonsoir à tous, bien sûr. Alors je vais le dire en italien quand même. Buonasera a tutti. Siamo contentissimi di vedervi stasera per ascoltarci. Alors nous sommes contents de vous voir ici ce soir pour nous écouter. Alors cette soirée, ceux qui ont l'habitude savent que la dernière soirée de la Corfi est consacré à une lecture en duo que nous pratiquons depuis quelques années, Françoise Labrette et moi. Et ce soir, donc, vous entendrez la voix d'un auteur contemporain qui s'appelle Paolo Cognetti, suivi de celle d'un conteur italien fort connu, hein, du XIIIe siècle, auteur du Décameron, Boccace, pour ne pas le citer. Je vous signale qu'il est mort en 1375. Alors, Françoise va vous présenter Paolo Cognetti et moi je m'occuperai donc de présenter très brièvement Boccace. Mais avant de commencer la lecture de ce récit de voyage, j'aimerais vous dire que dans ce récit, il rend hommage à de nombreux écrivains amoureux de la nature, notamment amoureux de la nature et spécialement de la montagne et des grands espaces, entre autres Thoreau, un Américain. Mais particulièrement, il fait allusion et il réécrit des poèmes d'une certaine poétesse italienne qui s'appelle Antonia Pozzi. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle, mais en tout cas, elle eut une vie assez malheureuse puisqu'elle a mis fin à ses jours en 1938 en plein fascisme triomphant, victime, je cite, d'un désespoir mortel. Alors, nous choisissons, si vous voulez, de commencer ce récit, Le garçon sauvage, donc Carnet de montagne, en lisant d'abord un poème d'Antonia Pozzi et de clore également le récit, dont nous avons pris évidemment des extraits, par un autre poème. Et après, évidemment, nous penserons à sourire, voire à rire avec Boccace.
Je vais vous présenter cet écrivain moderne, Cognetti, et nous allons l'écouter. Il nous dit « J'ai toujours eu un faible pour les contestataires, les anticonformistes et les casse-pieds. » En effet, il suffit de le regarder pour comprendre pourquoi. Paolo Cognetti, milanais d'origine, est un personnage obscur, renfermé, fuyant, introverti. Barberousse, lieu sombre, bouche close. Il aime tellement la solitude qu'il passe le plus clair de son temps dans les montagnes de la vallée d'Aoste, dans un monde sauvage où il retrouve une vie saine, faite de longues balades qui redonnent envie de vivre. La ville et la torpeur des corps, la montagne les réveille, nous dit-il. Écoutons-le. Je suis née à Milan en 1978. Je suis l'auteur de 3 séries de récits, un journal de montagne et un guide littéraire de New York. Si je ne suis pas partie dans les bois, vous pouvez me trouver à mon adresse sur le blog. Paolo a fait des études de mathématiques avant de se lancer dans une école de cinéma, devenir producteur, puis auteur de documentaires littéraires et sociologiques. Enfin, écrivain. Il vit entre Aoste, Milan et New York. C'est ce mélange de civilisation et de style qui fait l'originalité de son œuvre. Son premier roman s'intitule « Sofia s'habille toujours en noir ». Peut-être en avez-vous entendu parler. Ce roman lui a valu de figurer dans la sélection du prix Strega, l'un des plus prestigieux en Italie. Dans ce roman, il parle beaucoup des femmes. Et voilà ce qu'il nous dit sur les femmes. « Oui, je parle plus facilement avec les femmes. Avec les hommes, je partage sans doute autre chose que des paroles. Je crois que si l'attention pour les détails, les relations humaines, et pour une dimension plus intérieure, peut être appelée sensibilité féminine, alors je l'ai. Oui, Paolo Cognetti a bien compris les angoisses et les incertitudes des nouvelles générations. Les années difficiles de l'adolescence, surtout du côté des femmes.
Alors, bon, c'est difficile un peu après ça. J'ai séjourné dans les hauteurs, au-delà des sapins, cheminé par monts et vaux lumineux, traversé des lacs morts, et les ondes prisonnières m'ont chuchoté un secret. J'ai longé des rives blanches, appelant par leur nom les gentianes assoupies. J'ai rêvé dans la neige d'une immense ville de fleurs ensevelie. J'ai écumé les monts, hérissé comme une fleur, regardant les rochers, les hautes parois dans les mers du vent. Et, chantant à mi-voix, je me souvenais d'un ancien été où les rhododendrons amers prenaient feu dans mon sang. Antonia Pozzi, extrait de son recueil Les Névées, traduit par Patrick Remeau.
Voilà, on va rentrer dans le récit de Cognetti. Il y a quelques années, j'ai eu un hiver difficile. Il me semble inutile aujourd'hui de revenir sur la cause de mon malheur. J'avais 30 ans et je me sentais à bout de force, désemparée et abattue, comme quand une entreprise en laquelle tu as cru échoue misérablement. Un travail, une histoire d'amour, un projet à plusieurs, un livre qui a demandé des années d'efforts. À l'époque, imaginer l'avenir me semblait une idée aussi aberrante que de prendre la route un jour où tu as de la fièvre, qu'il pleut dehors et que ta jauge d'essence est dans le rouge. J'avais beaucoup donné et où était ma récompense? Je passais le temps entre les librairies, les magasins de bricolage, le bistrot d'en face et mon lit, d'où je contemplais le ciel laiteux de Milan à travers la lucarne. Et surtout, je n'écrivais pas. Ce qui pour moi est comme ne pas dormir ou ne pas manger. C'était un vide que je n'avais jamais expérimenté. Ces mois-là, les romans me tombaient des mains. Mais je fus attirée par le destin de ceux qui conduisent le monde. Et cela faisait une dizaine d'années que je n'avais plus remis les pieds à la montagne. J'avais pourtant passé tous mes étés jusqu'à l'âge de 20 ans. Pour l'enfant de la ville que j'étais, qui avait été élevé en appartement et avait grandi dans un quartier où il était impossible de descendre dans la cour ou dans la rue, la montagne représentait l'idée de la liberté la plus absolue. Là-haut, j'avais appris à me déplacer, d'abord durement, puis le plus naturellement du monde, comme d'autres enfants apprennent à nager parce qu'un adulte les jette à l'eau. À 8 ans, je marchais déjà sur les glaciers. À 9, j'escaladais des falaises. Et à 16, je pouvais enfin courir seule la montagne et étais plus à l'aise par les chemins que dans les rues de ma ville. 10 mois sur 12, je me sentais à l'étroit dans mes habits du dimanche et dans un système d'autorité et de règles à respecter. En montagne, je m'affranchissais de tout et libérais ma nature. C'était une toute autre liberté que de celle de voyager et de faire des rencontres, ou de passer la nuit à boire, à chanter et à séduire les filles, ou de se trouver des camarades avec qui s'embarquer dans de grandes aventures. Autant de libertés qui me sont chères, si bien qu'à 20 ans, il me semblait important de les explorer pleinement, mais à 30 ans, j'avais presque oublié comment c'était être seule en forêt, ou plonger nue dans un torrent, ou courir sur le fil d'une crête, avec rien d'autre que le ciel tout autour. Ces choses, je les avais faites. Elles étaient mes souvenirs les plus heureux. Le jeune citadin que j'étais devenu me semblait tout l'opposé de cet enfant sauvage et l'envie d'aller à sa recherche s'imposa en moi. Ce n'était pas tant un besoin de partir que de revenir, ni tant de découvrir une part inconnue de moi que d'en retrouver une ancienne et profonde que je croyais avoir perdue. J'avais mis un peu d'argent de côté, de quoi vivre quelques mois sans travailler. Je cherchais une maison, loin des centres habités et le plus en hauteur possible. Il n'y a pas de grandes étendues sauvages dans les Alpes, mais je n'avais nul besoin d'aller jusqu'en Alaska pour vivre l'expérience qui m'intéressait. Au printemps, je trouvais l'endroit idéal dans la vallée voisine de celle où j'avais passé les étés de mon enfance. Une baïta, en bois et en pierre, à 2000 mètres d'altitude. Là où les dernières forêts de conifères cèdent la place au haut pâturage. Un coin où je n'étais jamais allée, mais un paysage que je connaissais bien. Ni plus, ni moins que l'autre versant de la montagne que j'arpentais enfant. Il se trouvait à une dizaine de kilomètres du village le plus proche et à quelques minutes d'un hameau de montagne qui faisait le plein l'été comme hiver. Mais le 30 avril, jour de mon arrivée, il n'y avait personne. Les pâturages étaient encore en sommeil, teintés des couleurs brunes et ocres du dégel, les montagnes et les vallons ombragés encore recouverts de neige. Je laissai ma voiture au bout de la route goudronnée. Je mis mon sac sur le dos et pris le sentier à travers un bois, puis une prairie enneigée jusqu'à un groupe de chalets d'alpage en ruine. Un seul avait été rénové, celui-là même que j'avais loué. Sur le seuil, je me retournai. Autour de moi, il n'y avait rien, si ce n'est la forêt, les pâturages et ces vieilles pierres abandonnées. À l'horizon, les montagnes qui ferment la vallée d'Aoste au sud en direction de Grand Paradis, mais aussi une fontaine creusée dans un tronc d'arbre, les restes d'un muret de pierre sèche, le murmure d'un torrent. Tel serait mon monde pour une période que je n'avais pas définie, faute de savoir ce qu'elle me réservait. Ce jour-là, le ciel était d'un gris sinistre. Un matin glacial et sans lumière. L'idée n'était pas de me mettre au supplice. Si je trouvais quelque chose de bon là-haut, je resterais. Mais je pouvais aussi tomber plus bas encore. Et dans ce cas, j'étais prêt à tourner les talons. J'avais pris de quoi lire et écrire. J'espérais m'y remettre avec le temps. En attendant, j'avais froid. Il fallait que j'enfile un pull et que j'allume un feu. Aussi poussai-je la porte et entrai dans ma nouvelle maison.
Neige. Un matin, au beau milieu du mois de mai, je me réveillais sous la neige. Dans les prés, les violettes fleurissaient déjà, mais à midi, tout était blanc autour de moi. Un orage comme on en voit l'été, avec ses éclairs et ses coups de tonnerre, avait ramené l'hiver en ces lieux. Je restais à la maison toute la journée, le poêle et la cheminée allumés, à lire et à regarder par la fenêtre. Je jaugeais la couche de neige qui s'accumulait sur le balcon, 5, 10, 15 centimètres. Je me demandais ce qu'allaient devenir les fleurs, les insectes et les oiseaux que j'avais observés, éprouvant comme un sentiment d'injustice pour leur printemps interrompu. Vers 7 heures du soir, le ciel s'éclaircit, et l'étendue blanche devint aveuglante sous les rayons du soleil qui avait percé les nuages peu avant de disparaître derrière la montagne. J'enfilai mon coupe-vent, mes chaussures de marche et sortis faire un tour. Dans la neige, je trouvais les traces de plusieurs animaux. Un lièvre, un couple de chevreuils. Comme Alice avec le lapin blanc, je décidai de partir sur la piste du premier. C'étaient des empreintes en forme de V qui procédaient par bonds et venaient d'un genévrier non loin du chemin muletier. Elles le longeaient sur quelques mètres, puis, à mon grand étonnement, partaient en direction de la baïta. Le lièvre avait fait le tour du vieux mélèze, était allé boire à la fontaine, allant même jusqu'à sauter sur la table que j'avais dehors. Pendant la tempête, j'avais entendu un grand fracas, comme si le tonnerre avait frappé tout près. En allant dans la forêt, pour en avoir le cœur net, je vis qu'un mélèze était tombé. En faisant le tour de la dépouille, je vis un petit oiseau à terre. Il avait du mal à bouger, et je me dis qu'il était tombé du nid, peut-être même des branches de cet arbre. Quand je le pris dans mes mains, Il essaya de battre des ailes, puis se calma, ou peut-être était-il simplement paralysé de terreur ? Impossible de le savoir. C'était la première forme de vie que je rencontrais depuis des mois, et je m'en émus. Je ne pouvais pas savoir que j'étais en train de me condamner à un deuil imminent. Je sentais son cœur battre la chamade contre ma paume, ses pattes me chatouillaient la peau. « Tout va bien, lui dis-je, calme-toi, je vais m'occuper de toi. » De retour à la Bacta, je mis un torchon au fond d'une boîte et l'y installai. Que peut donc bien manger un oiseau aussi petit ? Vu toute la neige qu'il y avait dehors, je ne pouvais pas même lui ramener un insecte ou un ver avec thé. Je tentai de lui donner des boulettes de pain et vis qu'il les acceptait. Il réussit à en avaler deux, trois, puis s'endormit. Mais la faim, le sommeil, n'était qu'une illusion de vitalité. Quand je revins contrôler, je le trouvai étendu sur le flanc. Il respirait encore, mais dans une position qui n'avait rien de normal, et ses yeux restaient fermés. Il mourut avant la tombée du jour, et je le redéposai près du mélèze, ou peut-être dans la nuit, quelques renards ou quelques corbeaux en feraient son repas. Il me semblait plus juste de le leur remettre que de l'enterrer. Le lendemain matin, en buvant mon café devant le spectacle de la neige qui fondait sous les premiers rayons, je pensais encore à cet oisillon quand je vis un homme remonter le sentier. Ah, c'était Remigio, le propriétaire. Il était monté voir si la neige ne m'avait pas causé d'ennui, si j'avais encore de quoi me chauffer. J'ignorais de quel œil il voyait ma présence là-haut. La seule fois où nous nous étions parlé, je lui avais raconté que j'écrivais, que j'étais venue pour travailler sur un livre. Il ne s'était pas montré particulièrement étonné. Sans trop de discours, il m'avait serré la main et remis les clés. Il revint plus tard avec une tronçonneuse et nous débitâmes le mélèze mort. De la neige de la veille, il ne restait plus désormais que quelques plaques à l'ombre. Nous empilâmes les grosses grumes contre le mur de la Balta qui donnait sur l'ouest. Je les fendrai ensuite tranquillement, puis les remettrai à sécher. Si l'été fait bien les choses, pensais-je, j'aurai du bon bois pour me chauffer en septembre. Et qui sait, un ami avec qui partager la chaleur du feu.
Voisin, en juin, les bergers arrivèrent et ma solitude changea. Ils vinrent en camion, de grosses bétaillères que je vis débouler un jour au bout de la route. Les vaches, énervées par le voyage et peut-être émoustillées à la vue de tous ces présents fleurs, dégringolaient des glissières, se donnaient des coups de corne, faisaient fi des limites des pâturages et allaient s'enfoncer au milieu des sapins. Les bergers laissaient faire. En dépit de la transhumance à moteur, les plus âgés portaient encore leurs gilets de velours et leurs chapeaux de feutre. Une tenue que les jeunes avaient troquée contre de longues blouses imperméables. Tous observaient les montagnes à l'horizon comme pour reprendre leur marque dans le panorama. Ah, c'était un vrai déménagement que le leur. Ils changeaient de maison pendant 4 mois, transférant là-haut bêtes et familles, passant à une toute autre vie qu'en hiver, car qui dit été, dit plus d'heures de soleil, plus de temps passé au pré, plus d'herbes, plus de lait, plus de travail. Il n'empêche, il y avait une joie évidente dans leurs gestes. En donnant des nouvelles en dialecte, ils riaient souvent. On aurait dit que le bonheur des animaux avait déteint sur les hommes, que pour eux aussi monter à l'alpage voulait dire rentrer à la maison, peut-être sur les lieux de leur enfance, à coup sûr aux origines de leur métier. J'avais maintenant quelque chose à observer, en plus des nuages qui depuis quelques jours charriaient des pluies interminables. Non loin de la Baïta, sur l'autre versant du vallon où j'habitais, une famille d'éleveurs avait un alpage. De mon côté, en début de mois de juin, régnait le jaune des pissenlits dans l'herbe qui poussait à foison depuis un mois maintenant. Du leurre, si je me réveillais de bonne heure, je pouvais voir le père qui déplaçait les clôtures, décalant chaque jour les piquets de quelques mètres pour rationner la pâture. Puis après, le fils ouvrait le portail de l'étable et 7 jeunes veaux et une 30aine de vaches adultes dévalaient la pente jusqu'à la nouvelle bande d'herbe haute. C'étaient presque toutes des valtotènes pie rouges, dominées par quelques rennes noires bâties comme des taureaux. Le soir, il ne restait plus rien du pré. Lorsque je préparais le dîner, d'impérieux beuglements sortaient de l'étable. 3 ou 4 bidons en acier apparaissaient devant le portail et le tout-terrain de la fromagerie passait les prendre. Alors seulement la journée était maintenant finie. Mais le plus grand changement dans mon quotidien, je le dois aux chiens. Comme je leur mettais de côté mes croûtes de fromage, ils passaient me voir plusieurs fois par jour. Pour être tout à fait honnête, même si ça ne se fait guère chez les montagnards, il m'arrivait aussi de leur donner des gâteaux, de ceux que dans ma tête j'appelais les biscuits des copains. Leur collier avait une clochette. Ainsi, je les entendais arriver de loin. En vertu d'un système de hiérarchie interne, l'un ne décollait pas du pré, tandis que les deux autres étaient libres de vaquer à leurs occupations jusqu'au moment où il fallait rentrer les bêtes. Quand le fils les appelait, un jeu d'équipe se mettait en place. Ils encerclaient les vaches en aboyant, mordaient les retardataires aux jarrets et couraient après celles qui partaient à l'opposé, puis les raccompagnaient jusqu'à l'alpage. C'était un spectacle que de les voir à l'œuvre. Le lendemain, il pleuvait encore et j'avais décidé de faire des tagliatelles vertes. Je ramassais des têtes d'ortie autour de la baïta, les fis blanchir à la poêle, puis les hachais menus et les mélangeais aux œufs et à la farine. Je commençais à peine à étaler la pâte quand j'entendis un vacarme de sonnaille et les cris d'un gardien de troupeau. Je me mis à la fenêtre et eus tout juste le temps de voir deux veaux se faire la malle. Le berger n'était pas un de mes voisins, mais le loup solitaire et un peu boiteux qui passait quelquefois en tracteur. C'était le seul qui m'adressait un salut. Nous n'avions pourtant jamais échangé un mot. À cause de sa jambe, il n'avait pas pu courir après les mutins. Je le voyais tout là-haut au milieu du pré, qui agitait les bras en jurant. Je dénouai mon tablier, éteignis l'eau des pattes, pris mon bâton et sortis tout enfariné que j'étais. Je trouvai les veaux quelques mètres en contrebas, dans une clairière au milieu du bois. Ils broutaient comme si de rien n'était. Je ne savais pas s'il m'obéirait. Je l'avais juste vu faire. Je m'approchai du premier et lui donnai un petit coup de bâton sur le flanc. Et pas à pas, à reculons, il commença à remonter. Le second lui emboîtait le pas. Tout fier, je les conduisis jusqu'à Fontaine et les coinçai dans un angle entre la clôture et la baïta. Puis, attendis le berger boiteux en espérant qu'il fît vite. Il arriva quelques minutes plus tard sur un engin de motocross que conduisait un ami à lui. Il attacha les veaux avec une grosse corde et me demanda comment j'avais réussi à les rattraper. « Oh, je répondis que ça avait été facile, qu'ils avaient tout fait tout seuls. » Il rit. Et je vis qu'il lui manquait des dents de devant. Il me dit qu'il était à deux doigts de m'embaucher. Il s'appelait Gabriele. Il avait entre 40 et 50 ans. C'était difficile à dire, vu ses énormes mains, sa carrure de poids lourd, ses vêtements en lambeaux, sa barbe défaite et sa peau brûlée par le soleil. Vu de près, il boitait fortement. Il me raconta qu'il avait fini sous un tracteur l'année d'avant et que depuis sa jambe gauche tenait grâce à une plaque de titane et tout un tas de ferraille. De moi, il savait déjà tout. À quelle heure j'allumais le poêle le matin, tous les combien je sortais arracher les mauvaises herbes dans le jardin et que presque tous les jours, ça me prenait et je partais marcher. Il me voyait de là-haut lorsqu'il menait les vaches au pré. Sa baïta se trouvait un peu plus en hauteur à une quinzaine de minutes du sentier. Et mon exploit héroïque me valut une invitation à dîner pour le soir même.
Mâle, accent circonflexe, LES. Enfant déjà, je cherchais un modèle. Mon père travaillait tout le temps et il n'y avait pas d'autres hommes adultes dans les parages. À mes yeux, la ville appartenait aux femmes et il me fallait donc forcément chercher ailleurs, hors des murs de la maison, loin de l'école. Où pouvait bien se cacher le monde des hommes si tant est qu'il existât ? Je découvris la haute montagne grâce à un guide alpin, Renzo, qui commença à m'emmener quand j'avais 8 ans. Ce fut une rencontre déterminante. Il m'a appris bien plus qu'à grimper, car l'alpinisme chez l'enfant a surtout à voir avec la peur, la fatigue, la solitude. Et comme si cela ne suffisait pas, je craignais l'altitude et commençais à me sentir mal dès que nous franchissions les 3000 mètres. Voilà ce qu'était Renzo pour moi. L'adulte qui était à mes côtés, quand, au milieu des glaciers, parfois dans la neige ou le vent, je pleurais et vomissais. C'était quelqu'un qui me parlait avec douceur et savait me convaincre de ne pas abandonner. Il le faisait si bien que je l'aurais suivi n'importe où. Quand j'avais 18 ans, Renzo préparait l'Himalaya et il nous arriva une fois de faire une expédition à 4000 mètres aller-retour en quelques heures, rien que tous les deux. C'est une entente spéciale que celle qui se crée dans une ascension en double. À la longue, c'est comme si tu partageais avec ton compagnon de cordée non seulement une corde et une trace dans la neige, mais aussi une respiration, des pensées, un battement de cœur. Ce jour-là, nous entrâmes presque aussitôt dans les nuages et ne vîmes plus rien jusqu'au soir, si ce n'est le blanc indistinct de la glace et du brouillard. Et pourtant, c'est le plus beau souvenir que je garde de Renzo, notre Himalaya à nous. J'ai même tenté d'écrire une nouvelle sur lui. Mais comme le racontait cette histoire, notre relation se heurtait à un obstacle insurmontable. Je n'étais pas son fils, il n'était pas mon père. Quand, après avoir escaladé, chacun rentrait chez soi, j'essayais les jours qui suivaient de parler comme lui, peu, de marcher comme lui, à pas de loup, presque sans poser le pied, d'avoir le même comportement face au danger, par exemple, une tempête qui éclate sur la paroi, sifflotait. Lui, dès que je n'étais plus là, il repartait avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il ne m'aimait pas, mais c'était son métier qui voulait ça. Il avait besoin de clients, moi, d'un modèle. Je souffrais de ce déséquilibre comme on souffre d'un amour à sens unique. Pour ma part, c'est justement pendant ces journées de juillet que je repris la plume. Je venais d'avoir ma première visite là-haut et le besoin de raconter me vint comme viennent la faim ou le sommeil. J'ai vu une main et un pied de mon père dépasser des draps ce matin. Comme c'était étrange de le voir là, sur mon canapé-lit, invité chez moi. Mon père n'a jamais été un grand dormeur. Ce matin encore, j'ai trouvé par terre un verre vide et le Corriere de la veille en pagaille comme tous les journaux qu'on lit de long en large. Il avait dû passer la nuit à l'éplucher en sirotant le whisky écossais qu'il m'avait apporté et s'être endormi quand, dehors, il faisait déjà jour. Pour ne pas être gêné par la lumière qui entrait par la lucarne, il avait tiré la couverture sur ses yeux et c'est ainsi que je l'ai trouvé. Combien de fois m'est-il arrivé de voir mon père au lit ? La dernière, c'était sans doute un dimanche après-midi à Milan. Il convoquait ma sœur ou moi dans sa chambre quand nos chamailleries le réveillaient. Dans la pénombre, il désignait le coupable et prononçait son nom d'une voix forte. L'accusé frissonnait, l'autre était épargné. Il ne dormait pas non plus quand, des années plus tard, je rentrais au beau milieu de la nuit et le trouvais dans la cuisine, devant sa grappa et son journal. Et j'aurais préféré qu'il dît avec des mots ce qu'il me disait dans son regard. Comme ça, j'aurais pu au moins lui répondre « Écoute, c'est ma vie !» Quand je suis repartie, mon père était déjà levé. Plus tard, j'ai trouvé, en haut dans la forêt, un mélèze séché par un coup de tonnerre auquel il était arrivé quelque chose de bien étrange. Une seule branche proche du sol vivait encore. La foudre avait nui au tronc, mais profité à la branche, puis par je ne sais quel miracle, avait changé de cap, se mettant à pousser à la verticale, et l'arbre avait maintenant comme un deuxième tronc. Ainsi, à la place du vieux mélèze, il n'y avait non plus un, mais deux arbres, l'un calciné et nu, l'autre plein de bourgeons. Après ce qu'il s'était passé ces derniers jours, j'ai d'abord pensé que le nouveau tronc, ce pouvait être moi, et l'ancien, mon père. Puis je me suis dit que j'étais les deux à la fois, le nouveau et l'ancien, et que la foudre était justement ce que j'attendais, ce feu qui tue l'ancien toi pour laisser place au nouveau. Mon père n'était donc qu'un autre mélèze dans la forêt. Et dans un sursaut, je me suis retournée pour lui faire face.
Sans transition, puisque ça se suit, on passe à un chapitre qui s'appelle « Chèvre ». Les sauvages avaient disparu. La faute à tous ces gens qui commençaient à battre les sentiers, les contraignant à se retrancher dans les zones toujours plus inaccessibles. Oh, des randonneurs, j'en croisais tous les jours, presque immanquablement en bataillon. Et ils me semblaient sourds et aveugles au paysage qu'ils traversaient. Ils faisaient un tel raffut que je les entendais avant même de les voir. Même leur parfum chimique m'agressait à distance. Je m'interrogeais, est-ce moi qui ai des problèmes avec le reste de l'humanité ? Ou bien eux, qui ne savent pas traverser des terres sans les coloniser. Ils faisaient irruption dans la forêt avec un joyeux déchaînement d'odeurs et de bruits, et ses habitants se protégeaient en prenant le large. Mes voisins me manquaient, le lièvre, le renard, les chevreuils. Un jour de la fin de juillet, je me levai donc à 6 heures, bus d'un trait une tasse de café et quittait la maison. Pas de sac à dos, ni de gourde, ni de chaussures de marche. Rien que mon bâton et des espadrilles légères comme le vent. Après quelques 3 mois passés là-haut, je me sentais en grande forme. Je dépassais sans tarder la forêt et les premiers hauts pâturages. La baïta de Gabriele, les hameaux abandonnés et croulants, les repères des marmottes. Je m'arrêtais pour boire au ruisseau, puis dépassais rapidement les pâturages en hauteur. À cette heure, je n'avais devant moi que des caillasses, les petits lacs formés par le dégel et les dernières neiges. J'étais sur le territoire des chamois. Mais le problème en général avec eux, c'est qu'ils te flairent de loin et disparaissent aussitôt. Ce matin-là pourtant, quand j'arrivais sur la crête, j'eus un coup de chance. Je devais marcher contre le vent ou je sentais peut-être le bouc moi aussi. Toujours est-il que j'en vis deux, en contrebas sur un petit névé. Tout autour, la caillasse tiédissait sous le soleil matinal. La neige était réduite à de minuscules plaques brillantes et j'imagine que les chamois étaient là pour prendre le frais. Ils se roulaient sur le ventre, le dos et les flancs, savourant ce souvenir d'hiver. Ils jouaient comme des gamins. Je montais plus haut encore, qui aurait pu m'arrêter de toute façon. J'étais maintenant sur le fil entre les deux vallées de ma vie et je marchais sur des dalles de pierre que la glace avait fondues et sur cette mousse si douce que l'on trouve à 3000 mètres. Je vis ensuite quelques silhouettes sombres, reconnaissable entre mille sur la roche escarpée. C'était un petit troupeau de bouquetins. Ils ne sont pas aussi prudents que les chamois. On ne les chasse plus depuis plus d'un siècle. Ils ne craignent plus l'homme. Ils restent là-haut, sur les crêtes et les sommets, à plus de 3000 mètres, parce qu'ils ont chaud et qu'ils aiment surveiller leur territoire de leur piédestal. À cette altitude, il n'y a pas de végétation. Rien que du vent à toute heure et une lumière aveuglante. Le troupeau était composé d'un adulte majestueux, installé sur une vire dans la pose solennelle du chef, de quatre jeunes cabris agités qui se cherchaient entre eux, et d'un bouc si vieux et fatigué que j'en fis aussitôt mon préféré. Il avait le pelage râpé et de cornes trop lourdes qui l'obligeaient à se traîner la tête baissée. Aussitôt qu'il nous repérait, le chef se leva et s'interposa. Il me défiait en lançant un cri de combat, un interminable, soufflé à plein poumon. Il avait des cornes d'un mètre de long et au moins un demi-quintal de muscles pour les porter. Et une pichenette lui aurait suffi à me chasser de chez lui, voire de ce monde. Mais j'essayais de lui faire comprendre que je venais en paix. Les cabris sautèrent par-dessus un rocher pour aller se réfugier derrière lui, tandis que le vieux dut faire tout un détour pour les rejoindre. Je m'assis par terre et restai sans bouger pendant 5 minutes. Suffisamment pour que le chef finît par trouver que j'étais un ennemi ennuyeux, souffla une dernière fois et se mit à grignoter la mousse entre les pierres. Deux des cabris, s'entraînant pour la saison des amours, commencèrent à s'asséner des coups de corne. Ils se levaient sur leurs pattes arrière et se laissaient tomber de tout leur poids sur leur rival pour donner plus de force à leurs coups. Le choc faisait un bruit sec, comme deux grosses pierres frappées l'une contre l'autre. Le vieux était le seul qui s'intéressait encore à mon cas. Il s'était couché face à moi, à 3 ou 4 mètres de distance, et il me scrutait en ruminant et en se grattant de temps à autre le dos avec ses cornes. Je lui comptais une 15aine d'anneaux. Oh, 15 années passées à se balader en montagne, sans ennemis et sans jamais avoir à descendre dans la vallée. Quelle belle vie! Qui sait s'il vivait là son dernier été ou s'il résisterait encore un hiver aux affres du temps. Nous nous observions l'un à l'autre et j'avais comme l'impression qu'il se posait le même genre de questions à mon sujet.
Retour. Le lendemain matin, je restais à la maison à lire et à cuisiner. L'après-midi, j'allais saluer Gabriele et Remigio et passer le reste de la journée à flâner dans la forêt. Je cueillis des baies de genièvre pour le rôti et une poignée de myrtilles pour mettre dans la grappa. Le sous-bois était parsemé de gros bolets élégants jaunes, quelques coulemelles dans les clairières, quelques amanites tumouches. S'il y avait des cèpes ici, quelqu'un d'autre les avait ramassés avant moi. Mais c'était les arbres et pas tant les cèpes qui m'intéressaient. J'étais en pleine lecture d'Arbres en liberté de Mario Rigoni Stern. Seulement, j'habitais bien plus haut en hauteur que lui, et là où j'étais, il n'y avait nulle trace de ces hêtres, frênes, chênes, bouleaux, châtaigniers qui faisaient toute la richesse de la forêt de moyenne montagne. Je respecte le sapin rouge comme l'habitant d'un pays sombre. Il vit sur les versants humides et dans les vallées de l'ombre. Avec l'humidité, il pousse comme une flèche. Et c'est un bois léger, spongieux, idéal pour protéger les maisons contre le froid. C'est un respect purement formel que le mien envers un arbre que je ne comprendrai jamais vraiment. Son indifférence aux saisons me laisse perplexe, parce qu'une plante toujours verte est comme un visage impassible. Je me méfie de sa forme irréprochable qui le rend pareil à tous les autres. Les grandes étendues de sapins rouges me rappellent les forêts nordiques, les lacs, les fjords de la neige. Mais un jour de juillet, j'ai escaladé un rocher et j'ai vu quelque chose que je ne suis pas prêt d'oublier. La cime d'un sapin. Rien d'autre que les derniers rameaux au soleil. Couverte de fleurs bleues, un spectacle que seuls les oiseaux pouvaient admirer.
J'admire le pin sylvestre comme un pionnier. C'est le premier arbre de la haute futaie qui s'en va coloniser les caillasses, les couloirs creusés par les avalanches. Il enfonce ses racines entre les roches, tissant une toile qui les rend solidaires. La pauvreté du terrain en fait un arbre à la forme irrégulière et bizarre. Pas deux qui se ressemblent. Tous recourbés et tordus, comme les os des vieux montagnards. Impossible d'en tirer du bois de construction. Il ne va même pas au poêle, car sa résine met le feu au conduit de cheminée. Cette résine est pourtant le premier parfum qu'exhale la forêt à son réveil. Cette odeur m'évoque le sud et la mer. Peut-être parce que d'autres pins sentent bon, le maquis. Le pin sylvestre est donc un fantasme de soleil dans la forêt enneigée.
J'aime le mélèze comme un frère. Le mélèze, c'est l'odeur de ma maison et le feu de ma cheminée. Une rangée de mélèze, c'est ce que je vois à chaque fois que je lève les yeux de ma feuille et que je regarde à la fenêtre. Les jours de grand vent, ils ondulent comme les épis de blé. Le mélèze passe de longs mois de dormance avant de sortir ses bourgeons en avril. Puis il change de couleur à mesure que l'été avance, du vert franc de juin à celui terne d'août jusqu'au jaune et au rouge d'octobre. Il aime le soleil, les versants sud des montagnes, les terrains secs. Il cherche la lumière et se dressant de toute sa hauteur plus haut que ses camarades, l'une après l'autre, les branches plus basses sèchent, un peu comme les feuilles des palmiers. Et un rien suffit à les cacher. Mais la fragilité des branches est le prix à payer pour avoir un tronc solide. C'est avec le mélèze que l'on construit la travée des ponts et des toits. Sur la poutre maîtresse, la tradition veut que les montagnards gravent la date de construction. Les maisons les plus imposantes de cette vallée remontent toutes au début du XVIIIe. Quand je les regarde, je pense à ces mélèzes vieux de 4 siècles, le premier passé dans la forêt, et les 3 autres à porter une maison, et il me semble que c'est là le service le plus noble qu'un arbre puisse rendre à un homme.
Je vénère le pin cimbreau comme un dieu. Je lui dois le bâton avec lequel je marche. Il a un bois blanc qui ne jaunit pas avec le temps. Costaud et élastique dans les courses sur les sentiers. Ailleurs, il vit en forêt. Ici, c'est un arbre solitaire, dont la croissance est des plus lentes. Il a des graines que les oiseaux s'en vont cacher dans leurs réserves secrètes, les crevasses d'un rocher en altitude. Il suffit ensuite d'un peu de terre, d'une veine d'eau de pluie. Les pins cimbreaux poussent là-haut, tout au bord des précipices, entre les becquets, dans des endroits inaccessibles à l'homme. Parfois, ils prennent des formes torturées à force de se contorsionner pour pousser, de se tordre et de ployer sous la neige, d'essuyer les foudres de l'orage. J'ai trouvé le plus valeureux des arbres à 2500 mètres. Un pin cimbreau qui avait grandi dans une minuscule corniche qui le protégeait du vent et recueillait pour lui un peu d'eau de pluie. Il m'a semblé découvrir un temple secret, et j'ai dû dire quelque chose comme une prière.
Dernier vers, un adieu. Je passais mes derniers jours là-haut, avec cette idée en tête, la fin est importante en toute chose. Je voulais finir en beauté. Chaque matin, une longue stalactite de glace pendait à la fontaine. Quand je sortais faire du bois, je la cachais, la serrais dans ma main, jusqu'à ce qu'elle me collât à la peau, puis l'abandonnais en équilibre sur les aiguilles d'un mélèze, où elle finissait de fondre. Si la nuit avait été claire, le thermomètre extérieur indiquait moins 5 degrés. Avant de rentrer, j'allais jeter un œil au petit pin mougot que j'avais transporté non loin de là. Il venait des Dolomites, cadeau d'un ami. Même si cette terre n'était pas la sienne, j'espérais qu'il y prit racine et qu'il tint bon sous la neige jusqu'au printemps. À la maison, j'allumais le feu dans la cheminée, faisais du café, reconstituais les faits et gestes de la souris qui me tenait compagnie. Pendant la nuit, elle avait exploré le gros banc de la cuisine, le four, l'évier, fait un tour au rayon des pâtes et du riz, fouillé entre les lattes du plancher pour en sortir des miettes de pain. C'était le travail méticuleux que j'écoutais, couché dans mon lit, quand je ne dormais pas. Je ne savais plus quoi faire avec elle. Au début, elle jouait les timides, ne sortait qu'à la nuit tombée. Puis, elle avait compris que le propriétaire n'était pas contrariant. Et elle avait pris de l'assurance. Elle allait même parfois jusqu'à se montrer quand je cuisinais. « Oh, ça ne peut pas continuer comme ça, me disais-je, en nettoyant la baïta des traces de son passage. J'aurais dû faire appel au rustre montagnard qui était en moi et la tuer d'un bon coup de balai. Le bâton, je l'avais cassé peu de temps avant en traversant un torrent. La pointe de métal était allée se ficher entre deux rochers. J'avais fait levier pour la dégager et crac ! J'avais décidé que je ne m'en taillerais pas d'autre. De toute façon, il ne m'aurait servi à rien. » Mais j'avais gardé les morceaux qui restaient de l'ancien. Ce bois de cimbre écorché à l'opinel et séché au soleil, griffé par les pierres des caillasses et verni à la sueur de mes mains, finirait dans la cheminée le dernier soir. Et peut-être qu'après ça, j'arrêterais de m'attacher aux souris, aux bâtons et à mes chaussures qui partaient en lambeaux.
Je passais les derniers jours à préparer la baïta pour l'hiver. Dans le jardin où la nature avait repris ses droits, je répandis les cendres de la cheminée. Oh, il ne valait peut-être pas grand-chose mon engrais, mais il me semblait juste de le faire. C'était comme rendre à la montagne le mélèze tombé en mai, qui m'avait tenu chaud pendant des mois. Je recouvrais de quelques pelletées de terre le trou dans lequel je faisais les feux de camp et entassais le bois qui restait sous le balcon. Je rentrais la scie, la serpe, la bêche et le râteau. Puis, je me lavais les mains à la fontaine, glaciale, et jetais un coup d'œil autour de moi. L'endroit était de nouveau comme je l'avais trouvé au premier jour. Je n'avais plus qu'à fermer la bonbonne de gaz, vider les conduites d'eau, éteindre la lumière et partir. Là-haut, ça faisait un bout de temps que je n'y allais plus. Le matin, la montagne était recouverte d'une couche de glace. Je profitais donc de l'après-midi ensoleillé, partis tout de suite après manger, grimpais comme une flèche parce que je savais que le soleil ne tarderait pas à se coucher. Ensuite, ce fut comme enregistrer une bande de souvenirs. Atteindre la ligne de crête et découvrir encore, après tous ces mois passés, un versant inexploré. Prendre un sentier inconnu. Puis étudier la montagne et choisir une belle ligne, belle aux yeux de celui qui connaît la beauté, d'aller là où il n'y a pas de sentier et prendre par les hauteurs sur les traces des chamois. Dépasser les terriers déserts, les troncs brisés, les mélèzes incendiés par l'automne, traverser une caillasse en sautant de bloc en bloc au milieu des rhododendrons sans fleurs, tremper les mains et la tête dans un torrent, goûter les myrtilles d'octobre, les buissons nus mais encore chargés de baies, glacés par la gelée nocturne, flétris, noirs, sucrés comme du raisin sec. C'est quelque chose que je faisais déjà enfant, un dernier tour pour dire au revoir à la montagne. J'écrivais sur des bouts de papier et les glissais dans les fentes de la roche, dans les fissures des écorces. Ainsi, mes mots resteraient là, même après moi, comme ce livre. Il était temps de redescendre. Je savais déjà de quoi je rêverais tout l'hiver.
Et donc, pour clore ce beau récit, un poème de Antonia Poggi, que Cognetti aime particulièrement. J'ai crié de joie au crépuscule. Je cherchais les cyclamens parmi les ronces. J'avais atteint les pieds d'une roche rugueuse, grosse, rompant la route en touffe. Sur le pré criblé de pierres énormes, sur la tête blonde des marguerites, sur mes cheveux, sur mon cou tout nu, le vent se délitait du haut du ciel. J'ai crié de joie dans la descente, j'ai adoré la force dressée sauvage qui fait bondir à vide mes genoux. la force non connue et vierge qui tend son arc dans la course sûre. Tout le chemin sentait le cyclamen. Les prés devenaient sombres, mais frémissant encore des caresses d'or. Au loin, dans un triangle vert, le soleil s'attardait. J'aurais voulu sauter d'un seul élan en cet éclat et m'allonger dedans, dans le soleil, m'y dénuder, désaltérant le Dieu mourant de tout mon sang. C'est ainsi qu'elle annonce son suicide, en fait. Voilà. C'est terminé pour la première partie. Et comme c'est assez déchirant et que c'est un peu lourd à porter cette poésie, nous allons au moins poser quelques secondes, une ou deux minutes, avant de passer à ce joyeux gaillard. Je ne devrais pas dire ça parce que Boccace était un homme extrêmement savant, un grand lettré, un des meilleurs lettrés de l'Italie, d'écrivain. Il est mort en 1375, je vous l'ai dit. Et avec lui, donc, nous avons le droit à une œuvre extraordinairement riche et un livre connu de tout le monde qui s'appelle Le Décaméron. Alors, nous avons choisi quelque chose. Gentiment gaillard, pour pas choquer les oreilles sensibles, qui va vous réjouir, qui est très court et je pense très drôle.
Il n'y a pas longtemps vivait en Romagne un chevalier qu'on aimait pour sa générosité et pour ses belles manières, appelé Messire Lizio da Valbona. Il touchait déjà à la vieillesse quand sa femme, Madame Giacomina, eut le bonheur de lui donner une fille. Celle-ci, grandissant, dépassa en beauté et en distinction toutes les autres damoiselles du pays. Elle resta fille unique. Son père et sa mère l'aimaient, la chérissaient, l'entouraient de tous leurs soins et se proposaient de lui faire quelque bon mariage. Or, un jeune homme beau et pimpant venait passer de longs moments dans la maison de Messire Lizio. Il s'appelait Ricciardo et appartenait à la famille des Manardi d'Abretinoro. Messire Lizio et sa femme, le considérant comme un fils, n'auraient jamais pensé à se méfier de lui. Il eut ainsi l'occasion de voir à maintes reprises la belle jeune fille aux manières si agréables et à l'éducation si raffinée. Elle était maintenant bonne à marier. Il s'éprit violemment d'elle. Il prenait soin de cacher jalousement son amour, mais la jeune fille s'en aperçut et s'éprit à son tour, ce qui mit Ricciardo au comble de la joie.
Souvent, il avait envie de lui parler, mais la crainte l'en avait empêché. L'occasion s'étant présentée, il s'enhardit jusqu'à lui dire « Catherine, ne me fais point, je t'en supplie, mourir d'amour. » La jeune fille s'empressa de répondre « Plutôt ciel que tu ne fisses point mourir moi-même. » Cette réponse accrut la passion et la hardiesse de Ricciardo. « Je ne manquerai jamais, lui dit-il, de faire tout ce que tu voudras, mais avise aux moyens de sauver ta vie et la mienne. » La jeune fille dit alors « Tu vois, Ricciardo, la garde qu'on fait autour de moi. Je ne vois pas comment tu pourrais venir jusqu'à moi. Mais si tu peux y arriver sans me perdre de réputation, préviens-moi et je m'y prêterai. » Ricciardo, après avoir envisagé divers stratagèmes, lui dit « Ma douce Catherine, je ne vois d'autre issue que celle-ci. Alors qu'on te croirait endormie, tu passerais sur la terrasse qui est près de... du jardin de ton père. Si je savais que tu y dusses venir la nuit, je saurais bien l'atteindre, si haute soit-elle. » À quoi Catherine répondit « Si tu as le cœur de grimper si haut, je ferai bien en sorte de venir y dormir. » Ricciardo promit, sur quoi ils échangèrent un rapide baiser et se quittèrent.
Le lendemain, on était sur la fin du mois de mai. La jeune fille se prit à se plaindre devant sa mère, de la chaleur excessive qui l'avait empêché de dormir la nuit d'avant. La mère s'étonna. « Mais ma fille, que parles-tu de chaleur ? Il n'a pas fait chaud du tout. » « À votre avis, pourriez-vous ajouter, repartit Catherine, et sans doute diriez-vous vrai, mais ne savez-vous pas que les jeunes filles ont facilement plus chaud que les dames mûres ?» Et la mère de répondre, « C'est vrai, ma fille, mais le froid et le chaud ne dépendent pas de mon bon plaisir, comme tu le voudrais, je crois. Il faut supporter le temps que nous apportent les diverses saisons. » « Peut-être fera-t-il plus frais la nuit prochaine et tu dormiras mieux. »« Il en sera comme Dieu voudra, » dit Catherine. « Mais il ne se voit guère que les nuits rafraîchissent à mesure qu'on va vers l'été. »« Que veux-tu donc y faire ?» Et Catherine de répondre. « Si cela plaisait à mon père et à vous-même, je ferais volontiers disposer un petit lit sur la terrasse qui est près de votre chambre. » Et là, je dormirai au chant du rossignol. Comme l'endroit est plus frais, je me trouverai bien mieux que dans votre chambre. La mère dit alors, « Allons, sois contente, ma fille. Je vais en parler à ton père et nous ferons comme il lui plaira. »
Elle rapporta cette conversation à messire Lidio. Mais celui-ci, devenu peut-être moins indulgent avec l'âge, répliqua « Qu'est-ce que donc que ce rossignol qu'il lui faut pour dormir ? Je ferai en sorte qu'elle dormira même au chant des cigales. » Le dépit que lui donna ce refus tint Catherine éveillée toute la nuit suivante, mieux que ne l'avait fait la chaleur. À chaque instant, elle se plaignait d'avoir trop chaud, en sorte que sa mère ne put fermer l'œil. Celle-ci ne s'en trouva pas bien. Et le matin, elle dit à messire Lidio, « Messire, vraiment, cette fille ne vous est point chère. Que peut vous importer qu'elle dorme sur la galerie ? Elle n'a pu trouver un moment de répit de toute la nuit à cause de la chaleur. Au surplus, pourquoi vous étonnez qu'à peine sortie de l'enfance, elle aime entendre chanter le rossignol ? Les jeunes ont un penchant pour ceux qui leur ressemblent. » Messire Lidio écouta et dit, « Oh, eh bien, qu'on y fasse donc son lit du mieux qu'on pourra, qu'on l'abrite derrière des rideaux de serge, et qu'elle y dorme, et qu'elle écoute le rossignol à sa guise. »
La jeune fille informée fit vite préparer le lit sur le balcon. Et comme elle devait y dormir dès la nuit qui venait, elle sauta sur le bon moment pour faire à Ricciardo le signe convenu entre eux, qui le renseignait sur la conduite à tenir. Quand la jeune fille fut allée se coucher, messire Lidio ferma celle des portes de sa chambre qui donnait sur la galerie et alla se reposer. Dans le silence de la nuit, Ricciardo, à l'aide d'une échelle, monta sur le mur du jardin. De là, s'agrippant au péril de sa vie à des pierres d'attente, il atteignit, non sans mal, la terrasse où la jeune fille lui fit sans souffler mot le plus fervent accueil. Après 1000 baisers, ils s'étendirent côte à côte et pendant une bonne partie de la nuit, se livrèrent au plaisir. Maintes fois chanta le rossignol. Mais les nuits sont courtes et l'envie qu'ils avaient l'un de l'autre était grande. Le jour était déjà plus proche qu'ils ne pensaient. La température et les ardeurs les avaient si bien réchauffés qu'ils s'endormirent sans que rien recouvrît leur nudité. Catherine avait passé son bras droit autour du cou de Ricciardo et de sa main gauche, elle tenait cette chose que la pudeur interdit aux dames de nommer quand elles sont avec des hommes.
Le jour les surprit ainsi sans les réveiller. Messire Lidio se leva et se rappelant que sa fille dormait sur la galerie, il ouvrit sans bruit la porte-fenêtre. « Voyons, se disait-il, comment le rossignol cette nuit a fait dormir Catherine ?» S'avançant, il souleva doucement le rideau qui cachait le lit de la fille. Il voit Ricciardo et Catherine nus, découverts et enlacés comme dit. Il s'assura que c'était bien Ricciardo. Puis sortit, s'enfuit vers la chambre de son épouse et l'appela. « Alors vite, femme, lève-toi et viens voir !» Ta fille avait tellement envie du rossignol et s'est si bien mise à l'affût qu'elle l'a rattrapé et le tient dans sa main. Et la femme, « Comment se peut-il » « Dépêche-toi, dit messire Lizio, et tu verras. » La femme s'habilla en hâte et suivit sans bruit messire Lizio. Quand ils furent près du lit, Madame Giacomina, le rideau levé, put voir clairement comment sa fille avait pris et tenait serré le rossignol dont elle avait tellement souhaité entendre le chant.
La dame, se trouvant si indignement trompée par Ricciardo, allait partir en cris et en injures, mais messire Lizio la retint, lui disant « Femme, si tu tiens mon amour, garde-toi de proférer le moindre mot. Si elle l'a pris, tu peux m'en croire, il sera sien. Ricciardo est un homme jeune, noble et riche. Nous ne pouvons que gagner à cette alliance. S'il veut que nous nous quittions bons amis, il lui faudra d'abord épouser Catherine. Ainsi se trouvera-t-il d'avoir mis le rossignol dans sa propre cage et non dans celle d'autrui. » La femme, à ces mots, fut toute consolée, voyant que son mari n'était pas autrement fâché de l'affaire. Elle se disait que, somme toute, sa fille avait bien passé la nuit, avait bien reposé et avait attrapé le rossignol. Il n'y avait donc rien à redire. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Ricciardo se réveilla et, constatant qu'il faisait jour, se tint pour mort. Il réveilla Catherine avec ces mots. « Hélas, ô mon âme, que ferons-nous maintenant que le jour est venu et m'a surpris ici ?» Se contentant, messire Lizio s'avança, leva le rideau et dit « Vous ferez ce que faire se doit, indubitablement. »
Ricciardo, le voyant, crut qu'on lui arrachait le cœur. Il s'assit sur son lit, disant « Monseigneur, je vous demande grâce au nom de Dieu. Je reconnais que je mérite la mort en tant qu'homme déloyal et méchant. Faites donc de moi ce qu'il vous plaira. Mais je vous en prie, s'il est possible, épargnez ma vie, ne me faites point mourir. » Messire Lizio lui répondit « L'amitié que je te portais et la confiance que j'avais en toi ne méritaient pas un tel salaire. Mais puisque les choses en sont là et que la jeunesse t'a conduit à cette grande faute, si tu veux que soit écartée de toi la mort et de moi la honte, il faut, avant de bouger d'ici, t'engager à prendre Catherine pour légitime épouse. En sorte que, de même qu'elle a été tienne cette nuit, elle le soit aussi longtemps qu'elle vivra. Ainsi peux-tu obtenir mon pardon et ton salut. Mais si tu refuses ce que j'exige, recommande ton âme à Dieu. » Tandis qu'ils échangeaient ces paroles, Catherine lâcha le rossignol, se blottit sous les draps et se mit à pleurer à chaudes larmes, suppliant son père de pardonner à Ricciardo et priant Ricciardo de se plier à la volonté de messire Lizio afin qu'il puisse renouveler pendant longtemps et en toute sécurité les plaisirs de la nuit passée. Mais point ne fut besoin de supplier longtemps Ricciardo. D'une part, la honte de la faute commise et la volonté de s'en racheter, d'autre part, la peur de mourir et le désir d'en réchapper, ajoutés à son ardent amour et à la joie de posséder l'objet aimé, lui firent dire avec empressement et sans retard qu'il était prêt à obéir en tout point à messire Lizio. Alors celui-ci fit apporter l'un des anneaux de Madame Giacomina et, sur le champ, dans la tenue où il était, Ricciardo s'engagea devant eux à prendre Catherine pour épouse. Ceci réglé, messire Lizio et sa femme dirent à Catherine « Et maintenant reposez-vous, sans doute en avez-vous plus grand besoin que de vous lever. »
Eux partis, les jeunes gens s'embrassèrent de nouveau. Et n'ayant pas cheminé plus de 6 000 pendant la nuit, ils fournirent encore 2 000 avant de se lever et mirent ainsi fin à la première journée. Puis, s'étant levé, Ricciardo s'étant entretenu plus longuement avec Messire Lizio, quelques jours après, comme il convenait, en présence des amis et des parents, il épousa de nouveau la jeune fille et la conduisit à sa maison en grande fête. Et par la suite, il oisela longuement avec elle au rossignol, en paix, et à son grand contentement, de nuit et de jour, comme il lui plut.
Nous sommes passés du tragique, quasiment, enfin d'un récit assez classique sur la montagne, mais qui montre quand même un magnifique amour de la nature, enfin quelque chose d'assez classique, d'un style très contemporain, d'une vie très contemporaine. Je pense que plusieurs d'entre vous vous êtes reconnus comme montagnards, hein. Il y en a ici. Ah, donc, cette gentille petite histoire gauloise, si on peut dire, si c'était français, mais disons qu'elle est gaillardement italienne. Voilà, bon.
Alors, je vous recommande de lire, oui, parce que c'est magnifique.